Le titre du message ce soir, c'est « Je vous pose une question. Comment va ta flamme? » Ça fait bizarre quand on se pose la question-là. C'est pas une question qu'on se demande souvent. On se demande plutôt comment ça va. Puis là, on veut savoir l'état physique. « Ah, oh, j'ai mal ici, j'ai mal là, ou il faut que j'y aille faire. » Mais comment va ta flamme?
Ben, j'ai réparé ma fourmette.
C'est pas celle-là.
La femme de ton cœur.
OK. Quand on va partir avec ce message-là, ça va nous faire comprendre quelque chose que spirituellement, Dieu a déposé ou veut déposer son feu en nous. Puis vous allez voir avec les versets, vous allez dire, waouh, le Seigneur, il y a de quoi de puissant qu'il veut mettre en nous, mais si on se pose pas la question, on s'arrêtera pas pour savoir, est-ce que je l'ai, cette flamme-là? Suis-je animé de ce feu-là, le feu de Dieu? Depuis le début de la prédication de Jean-Baptiste, Dieu nous appelle à être revêtus de son feu. Parce que quand Jean-Baptiste prêchait, dans Matthieu 3:11, ça nous dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, puis je suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a un revêtement de l'Esprit-Saint qui vient sur nous, qui est offert par Jésus-Christ, d'être revêtu du Saint-Esprit et de feu. Le mot feu, là, c'est le feu qui veut dire ardent. Un feu brûlant, ardent. Comme si tu allumes une allumette, ça, c'est juste du feu. Mais si tu allumes une torche benzomatique quand tu veux souder, là, c'est du feu avec alimenté d'oxygène ou alimenté d'acétylène avec des torches pour couper des mécaniciens qui servent de ça. Tu as le feu ardent. C'est une flamme ardente alimentée avec du combustible puissant. Quel est ce combustible-là? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit veut nous recouvrir, puis nous recouvrir aussi d'un feu ardent. Puisque c'est ce que la Bible nous dit, que quand à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il dit « Vous serez baptisés du Saint-Esprit », ça c'était l'accomplissement de la promesse que Jean-Baptiste venait de dire à tout le monde. Lui, Jésus, va vous baptiser d'Esprit-Saint et de feu. À la Pentecôte, Jésus a dit à ses disciples « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puis vous serez des témoins à Jérusalem, dans Judée, dans Samarie ». Le fait de recevoir le Saint-Esprit, je parle pas juste de naître de nouveau. Je parle du revêtement de puissance. Il dit aller recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est cette puissance-là. Puis en passant, c'est pas qu'on reçoit une puissance qu'on contrôle. C'est pas ça. C'est qu'on reçoit un être puissant qui est très puissant, que lui veut nous contrôler. Lui, le Saint-Esprit, veut prendre la place, il veut prendre notre esprit, notre âme, notre corps, puis il veut passer à travers de notre vie pour rejoindre les autres. Puis il dit, c'est là que vous allez être des témoins. Quand l'Esprit-Saint va être là, tu vas devenir un témoin. Puis c'est quoi ça, être un témoin? Tu sais, quand t'as une lumière, t'allumes une lumière, puis il y a une petite lampe témoin après la lumière. Quand tu mets la lumière à on, la lumière s'allume aussi pour t'indiquer que ça marche. Mais quand que le Saint-Esprit vient sur une personne, il y a de quoi qui s'allume. Le feu de Dieu s'allume à travers cette personne-là. Il y a de quoi de surnaturel qui est supposé de se produire. Puis là, c'est pour ça que je te pose la question, comment va ta flamme? Dans Hébreux, Dieu a fait de nous des flammes de feu, que ça nous dit dans ce passage-là, dans Hébreux 1:7. De plus, il dit des anges, celui qui a fait des anges, des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Chaque chrétien revêtu de la puissance d'en haut, il est sur la terre une flamme de feu. Nous sommes là pour briller comme des flambeaux dans le monde. Nous sommes là pour illuminé. Jésus disait être la lumière du monde. Puis il dit, quand tu allumes une lampe, tu la mets pas en dessous de la table, tu la mets sur le chandelier pour qu'elle éclaire tout le monde. On est là pour éclairer, on a besoin du feu de Dieu pour éclairer. Puis là, dans le Saint-Esprit, sa puissance et son feu, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait toucher dans ce que le feu peut produire. Ce soir, on va parler d'un aspect que je veux viser dans l'aspect que le feu de Dieu peut produire dans nos vies. Qu'est-ce que ça fait du feu quand tu mets du feu autour de l'eau?
Ça
s'éteint pas. Si tu le mets en dessous de l'eau, c'est vrai, si tu le mets dans l'eau, oui, il va s'éteindre. Mais en dessous de l'eau, dans un chaudron, il va faire bouillir l'eau. Le feu fait bouillir. Le feu, comme on a parlé aussi tantôt, fait chauffer pour que l'or fonde puis que le scorie s'échappe. C'est ça que c'est la purification de l'or dans, quand elle passe au feu. Mais le feu de Dieu... Non. Le feu de Dieu va produire en nous du zèle. Vous allez voir dans quel aspect. Il y a plusieurs passages qu'on va regarder dans cette idée-là. Ça va produire du zèle, de l'enthousiasme, de la ferveur, de l'ardeur, de l'empressement, puis d'être bouillant pour le Seigneur. Le feu de Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit, ça va produire en toi quelque chose qui va faire que tu vas devenir bouillant pour servir le Seigneur. Tu seras pas quelqu'un d'éteint. Tu seras pas quelqu'un de désintéressé. En contraste de ça, de cette ferveur-là que le Saint-Esprit veut faire, ça sera de la paresse, de la nonchalance, de la lenteur, de la mollesse, un manque d'enthousiasme. Le Saint-Esprit veut produire en nous du zèle, de l'enthousiasme, être excité. Quand il dit « Je suis dans la joie », quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel », David était rempli du Saint-Esprit pour parler comme ça. C'est pas quelque chose qui est naturel, humainement parlant, d'être excité, d'aller prier. Faut que ce soit le Saint-Esprit qui t'amène dans cette ardeur-là, dans cette zèle-là, à vouloir être comme ça. Ça, Dieu veut le faire. Comment va ton zèle? Comment va ton enthousiasme, ta ferveur, ton ardeur, ton empressement pour Dieu? Ou comment est-ce que tu es bouillant pour le Seigneur? C'est les questions qu'il faut se poser, parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Comme un chaudron rempli d'eau, tu le mets sur le feu, ça bouille. Mais si tu veux devenir bouillant dans le Seigneur, il faut que tu te laisses que le feu de Dieu passe dans ta vie, puis que c'est ça qui a promis que tu sois revêtu de puissance, la puissance du Saint-Esprit et de feu. L'effet bénéfique d'être animé du feu de Dieu, ça produit du zèle, puis ça stimule les autres aussi. Toi, ça t'excite d'être comme ça, mais si t'es rempli de l'Esprit, puis t'es excité pour le Seigneur, ça va se communiquer aux autres.
Ça s'attrape,
c'est contagieux. Dans l'Ancien Testament, tu vois qu'il y a du monde, même comme le roi Saül avait été rejeté de Dieu comme roi, puis l'Esprit Saint s'était retiré. Puis à un moment donné, par après, il est allé auprès d'un groupe de prophètes, puis il était touché par l'onction qui était ses prophètes, puis le feu a pris, puis il s'est mis à prophétiser là, avec. Le Saint-Esprit l'a saisi, puis il s'est mis à prophétiser. Tout ça pour dire que quand les gens sont en contact avec l'Esprit Saint, puis ont été alimentés par l'Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit, puis de son feu, ça va être contagieux, puis les autres aussi vont le vivre. Mais il faut premièrement, nous autres aussi, qu'on s'examine soi-même pour savoir si on l'est alimenté, puis si on l'est pas, mais s'arranger pour le devenir. Parce que ça fait partie du plan de Dieu. Alors regardez dans 2 Corinthiens 9:2, ça nous dit... Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que la chaille est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Ça, c'est le bout de la phrase que je voulais apprendre. Ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Eux autres, les Corinthiens, ils étaient animés d'un zèle à vouloir participer à l'œuvre de Dieu puis à pouvoir être donnés dans l'œuvre. Puis quand ils ont décidé de le faire, puis d'être excités de le faire, puis de vouloir le faire... C'est ça. Puis ça a le fait que les autres aussi ont été stimulés par leur zèle. Quand on est animé du feu de Dieu, ça va toucher les autres. Le feu de Dieu qui produit en nous un zèle va toucher les autres pour les rendre zélés. Puis le contraire aussi, si on est tout lasse, comme si on marche, c'est pénible, puis tout est forçant, puis on est paresseux, puis on veut pas bouger, mais on risque de semer ce mauvais exemple-là avec. Le zèle de Dieu est comme un moteur qui nous pousse à la foi et à la persévérance. Dans Hébreux 6, 11, ça nous dit ça. C'est Paul qui parle, c'est pas Paul, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point, puis que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. » Il dit « Je veux que chacun de vous ait le même zèle. » Qu'on soit animé du feu de Dieu qui nous pousse à être zélés pour le Seigneur, qui nous pousse à être ardents, à être enthousiastes pour le Seigneur, à être excités à marcher pour le Seigneur, parce que c'est ce zèle-là qui va faire qu'on va persévérer quand ça va aller mal. Si on n'est pas animé de ce zèle-là, on n'ira pas jusqu'au bout pour imiter ceux qui ont la foi puis la persévérance pour hériter des promesses. Parce que pour hériter d'une promesse, ça prend de la foi, puis ça prend de la persévérance. Si on lâche à moitié chemin, là, tu commences à demander à Dieu qu'il t'aide dans une affaire, puis là, tu commences à prier, tu pries par une fois, deux fois, trois fois, puis là, tu arrêtes de prier. T'as pas eu de persévérance dans ta prière, t'as pas prié jusqu'à temps de l'obtenir, tu l'auras pas. Parce que ceux qui héritent des promesses, c'est ceux qui ont la foi, ils ont une conviction que Dieu va le faire, puis ils ont une persévérance à pas lâcher, à continuer, puis à prier avec zèle, puis avec ferveur, puis avec enthousiasme, avec foi, puis c'est de même qu'ils obtiennent les promesses. Puis là, il dit, ayez chacun de vous le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. C'est un zèle-là, c'est le Saint-Esprit qui peut nous le mettre. Je parle pas du zèle de la chair qu'on s'excite, que le feu de Dieu puisse nous alimenter pour qu'on puisse être rempli de ce zèle-là. Puis ça va être un moteur qui va nous pousser à la foi et à la persévérance. C'est un zèle-là peut aussi nous animer lorsque nous prions. Dans 1 Thessaloniciens 3:10, ça nous dit « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Wow! Ça, c'est fort. L'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. » Ça, c'est des gens alimentés du zèle, du feu de Dieu. Dans un désir de voir les choses changer, nuit et jour, il priait avec une extrême ardeur. Puis ça, c'était pour un but, là, mais le point est, sommes-nous capables d'arriver à cette extrême ardeur-là par nous-mêmes? Non. Il faut que tu sois alimenté de la puissance du Saint-Esprit. Dans Jacques 5, 16, pour dans la même pensée, il dit, c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Une prière fervente, là, c'est avec ferveur, avec intensité. C'est pas une prière comme « Oh Seigneur, merci. » On parle, là. C'est comme si on est en train de dormir. Le contraire de ça, c'est une prière avec ferveur, avec un désir ardent. Seigneur, là tu... Puis là, il y en a qui rajoutaient dans leur prière des larmes. Pas qu'on faut se forcer pour prier. Faut pas faire exprès. C'est pas un mime qu'on fait quand on prie. C'est pas une pièce de théâtre. C'est pas comme si on serait des acteurs. Puis il faut prier. Mais n'empêche qu'il y en a en étant vrai qui priaient. La plus belle exemple de ça, là, pour la prière fervente, c'est quand Jésus était dans le jardin de Gethsémané, il a prié tellement fort en proie, en angoisse, puis dans l'agonie, qu'il a sué du sang en priant. Quand il disait, « Prière, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, non, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Il priait tellement avec ardeur, puis avec intensité, puis avec zèle, puis avec... Il était pas un fake, là, il fakeait pas, c'était vrai. Il vivait, là, son combat. Mais il en suait du sang. Mais il y en a qui ont sué des gouttes d'eau en priant. Ça, c'est, ça a déjà arrivé. Mais ça, c'est de l'intensité. Mais il faut arriver à être... Je dis pas qu'il faut imiter pour faire, comme je disais, comme un acteur, mais qu'on peut arriver à avoir un petit peu plus de ferveur dans notre prière. De la foi, si on peut être sûr que Dieu fasse une affaire, ça c'est une chose. De la persévérance, qui en compris, ça, ça en est un autre. Mais prier avec intensité, avec ferveur, comme Paul il disait, on prie, on nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur. Ça devait être intense, puis ça devait crier dans la place. Ça devait brasser des affaires. Pour revenir à la ferveur, pour dire que c'est quelque chose que Dieu peut donner par son Saint-Esprit, on le sait que c'est biblique, c'est là, mais ça peut arriver qu'on le perde. C'est ce qui est arrivé à Timothée. Puis Paul, il disait, « Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Ça, quelque part, ça peut arriver qu'on perde ce qu'on avait reçu. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas de quoi d'acquis que tu as reçu là, X années, puis que tu es sûr de l'avoir toute ta vie. Non, c'est renouvelable. C'est comme gazer ton char, faut que tu y retournes au garage à tous les réguliers, qu'à minute la tank baisse, faut que tu ailles en remettre du gaz. Mais le Saint-Esprit, ça nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est quelque chose qu'il faut que tu... C'est en mouvement, ça. Là. C'est quelque chose de répétitif. Faut que tu sois toujours à la recherche d'être rempli de l'esprit.
Faut que tu sois gazé de l'esprit.
Faut que tu le fasses à tout, régulièrement.
On a besoin d'avoir du plein tout le temps, constamment.
Je vais vous dire quelques versets, quelques facteurs qui peuvent refroidir notre flamme de Dieu. Un des points, c'est qu'on a besoin d'être persévérant puis un désir de s'enraciner en Dieu. Parce que, basé sur Matthieu 13, 20, qui nous parle de la semence qui avait été jetée dans les endroits pierreux. Ça nous dit que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, puis il la reçoit aussitôt avec joie. Ça a produit tout de suite une ferveur, sur le coup. Il était excité d'avoir entendu la parole, puis de l'avoir reçue. Puis il l'avait, puis ça, il était parti, là, ça, c'était correct. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Puis dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Le mot persistance qui est là, il manque de persistance. Ça nous dit que ça veut dire pour une saison, endurant seulement pour un temps, que c'est juste temporaire. C'est des hommes temporaires, des hommes pour un temps. C'est des gens que quand ils commencent de quoi, ils lâchent. C'est pas du monde qui persévère. Quand tu veux être un chef d'entreprise, tu veux bâtir ton entreprise dans le monde, là, les gens dans le monde, puis que les gens... Même pour, comme la Bible nous parle aussi, c'est le même exemple pour un athlète qui veut gagner la médaille d'or. Il s'entraîne pas avec une fin de semaine, là, puis après ça, 6 mois après, il va aller faire les triples sauts avec des pirouettes puis toute la patente. Ça prend un entraînement incroyable. Ils se donnent toutes sortes d'abstinences, puis ils font de l'entraînement, puis de l'exercice, puis ils répètent leurs exercices sans arrêt pour être d'une forme exceptionnel pour réussir l'exploit d'essayer de battre même le propre record puis battre le record des autres. Ça prend un entraînement incroyable.
Il dit qu'il va écouter celui qui l'a entraîné.
Puis il va être à l'écoute de l'autre aussi, c'est sûr que pour pouvoir...
L'entraîneur,
ouais, son mais, coach.
Mais Dieu, c'est comme ça aussi.
Oui. L'homme d'un moment, il a pas de racines, puis c'est rien qu'un gars temporaire. Il commence de quoi, puis il lâche. C'est un lâcheux. Eux autres, il peut avoir une joie quand il reçoit la parole, mais vu qu'il n'y a pas de sérieux dans son engagement, il prend pas racine là-dedans, dans la parole, il lâche au bout d'un certain temps. Mais ça peut être un exemple pour nous aussi, si on est des gens d'un moment, des gens qui le sont lâcheux. qu'on a de la misère à donner un effort, puis un effort continu pour atteindre notre but. Comme que je parlais la semaine passée des résolutions qu'on peut prendre. On prend une résolution, mais de la maintenir, si on change pas d'idée, on va voir les choses s'accomplir, mais si on change d'idée en cours de route, l'année d'après, on est encore pareil. L'année d'après, on est encore pareil. Il n'y a rien qui va changer si on ne met pas un effort continu. Tu veux te partir une entreprise, mais il faut que tu travailles, tu bûches, tu comptes pas les heures, puis tu en mets du temps, puis des efforts, puis de l'énergie. Puis là, ça commence tranquillement, ça rapporte un petit peu, puis ça prend du temps avant que ça rapporte, puis d'établir tes contacts, puis de monter ton entreprise. C'est un effort incroyable. Les gens, il y en a qui se sont brûlés pour essayer d'atteindre le but humain. Mais dans le Seigneur, on a un minimum d'efforts pour garder la flamme de Dieu. C'est quelque chose qu'on peut recevoir si on veut la puissance de l'Esprit, puis c'est quelque chose qu'on peut vivre et qu'on peut garder, puis continuer à zéler pour le Seigneur. Une autre affaire qui peut nous refroidir, il faut faire attention de ne pas être déçu et refroidi par les désillusions causées par les fausses prophéties. Parce qu'il y a un verset qui en parle justement dans 1 Thessaloniciens 5, 19 qui dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, puis abstenez-vous de toute espèce d'amertume. » Ça, n'éteignez pas l'esprit, puis ne méprisez pas les prophéties, c'est parce qu'il y a du monde qui a analysé certaines prophéties dans certaines églises, puis que c'était pas le Saint-Esprit qui a parlé, puis là, ça les a déçus. D'entendre des prophéties ici, puis Dieu dit ça, puis il n'y a jamais rien qui se passe, puis les gens sont déçus, puis ils éteignent l'esprit. Ils disent, moi là, je veux plus rien savoir des prophéties, puis là, ils méprisent les prophéties, ils veulent plus rien savoir parce qu'ils ont été déçus. Ça a éteint leur flamme, leur désir de vouloir m'entendre des paroles de Dieu. Là, je parle avec expérience, je l'ai déjà vécu, ça. Ça m'est déjà arrivé que dans les églises, j'entendais du monde prophétiser à droite pas à gauche, puis il n'y a jamais rien qui se faisait, ou des fausses guérisons que les gens, ils avaient été imposés des mains, ça disait, sa jambe a rallongé, dans la semaine, il allait voir le médecin, puis il a mesuré, puis il n'y avait rien qui avait rallongé, puis ça criait au miracle, puis il n'avait pas de miracle. Ça crée une déception. Ça donne une désillusion. Tu viens comme désabusé, ça te tente plus d'en entendre puis d'en voir des faussetés de même. Ça décourage puis ça t'enlève ta passion, ton feu, ton désir des vraies paroles de Dieu. Parce qu'il y a eu d'autres moments que Dieu a vraiment parlé puis ça répondait exactement à des besoins bien précis. Puis là, à cause qu'on était découragé par les autres choses négatives qu'on a vues, on n'aspire plus aux vraies affaires. Mais il faut pas se laisser éteindre.
C'est le vrai, le faux qui l'emporte. Là.
Faut pas que ça soit le faux qui l'emporte.
C'est ça, le vrai, il faut qu'il reste là.
Oui.
Le monde, hop, là, sont tous des équipes.
C'est pour ça qu'il dit...
Mais le Seigneur, quand il dit « n'éteignez pas l'esprit », ça veut dire que c'est toi-même, il ne faut pas qu'il l'éteigne. Parce que lui, il a fait une promesse. Et Dieu, n'éteignez pas le lumignon qui brûle en toi.
Oui. Là, il nous dit à nous, n'éteignez pas, parce que notre découragement peut nous, si on se laisse aller, peut s'éteindre, mais Dieu veut pas nous éteindre, même s'il y aura du faux.
C'est ça.
Parce que tu peux arriver d'être dans une église qui sont toutes dans un autre esprit, puis dans du faux, puis toi, être un vrai. Puis toi, t'es excité pour le Seigneur, puis t'aimes la parole de Dieu, puis tu vas parler franchement des vraies choses de Dieu. Il y en a des églises, je ne veux pas en nommer, mais il y en a des églises qui servent des prophètes qui ne sont pas les prophètes de Dieu, puis ils vivent le culte pour des faux prophètes. Puis j'en connais des églises qui sont proches d'ici. Je ne peux pas les nommer. Puis c'est pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais il y a un esprit qui agit, puis il y a bien des faussetés, puis ça peut créer des désillusions. Faut pas se laisser éteindre, puis faut se dire, moi je reste accroché au Seigneur. Une autre affaire qui peut nous éteindre, c'est notre autosatisfaction ou notre fierté ou notre orgueil d'avoir atteint certains niveaux. Ça peut nous refroidir.
L'orgueil.
Ça peut nous refroidir. Le feu de Dieu va s'éteindre. Dans Apocalypse 3.15, que ça nous parle de ça, Jésus dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Ces chrétiens-là t'ont rendu tiède. Le feu s'était éteint, pas complètement éteint, mais presque éteint dans cette église-là. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que t'es tiède, que t'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, là on va voir le problème, eux autres, ils se disaient, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai pas besoin de rien. Ça, c'est l'autosatisfaction. Ils pensaient d'avoir atteint le maximum, puis qu'ils n'ont plus besoin de rien, ils ont tout. Fait que le fait de se penser dans cet orgueil-là, oui, ça fait que t'es rendu un tiède aux yeux de Dieu. Tu sens même plus que t'as encore besoin de Dieu. Oui. Fait que là, t'es rendu comme indifférent face à Dieu. Ça te tente plus là, d'avoir la main de Dieu dans ta vie, puis être excité pour Dieu, puis de vouloir que Dieu te donne une parole, puis de continuer. Ça te tente plus. Tu penses que t'as déjà tout, puis t'as plus besoin de lui. T'es autosuffisant, t'es satisfait dans ce que t'es. T'es rendu refroidi, t'es rendu tiède aux yeux de Dieu, puis ça fait, c'est aussi pire que d'être froid. Parce que les froids rentreront pas, puis les tièdes non plus. Dieu veut pas qu'on tombe dans la tiédeur. Il veut qu'on reste bouillant pour lui, puis qu'on soit excité. Là, il dit, je te conseille d'acheter de moi, puis là, il donne des affaires. Là, il dit, moi, je reprends un châtisseux que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Ça veut dire qu'à même...
Hein? C'est là qui dit, je te conseille d'acheter de l'or.
Oui.
Il y a un collier.
Oui, pour voir tes yeux. Oui, oui. Il voulait le point que je voulais pas l'emmener nécessairement, mais aie donc du zèle et repens-toi. Reviens dans l'excitation là, de bouillant pour le Seigneur, de vouloir que Dieu agisse dans ta vie, puis de vouloir que Dieu fasse telle et telle chose. Faut revenir dans le zèle, puis de changer de vie, parce que là, il t'a rendu tiède, indifférent, ils n'ont plus besoin.
De demander à Dieu, autrement dit, de ranimer cette flamme-là.
C'est ça. C'est ça. Puis là, il dit que si quelqu'un frappe à la porte, il dit, je me tiens à la porte, puis je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et rouvre la porte, j'entrerai chez lui, puis je souperai avec lui. Jésus, là, il était comme midoir quand on est rendu tiède. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Ces gens-là étaient tièdes, ils ont mis Jésus dehors de leur église. Puis Jésus, il est dehors, puis il frappe, puis il dit, s'il y en a un qui entend, bien, j'irai souper chez eux. Dieu, il s'attendrait bien plus que toute la gang puisse entendre, puis que toute la gang puisse dire, hey, on a laissé tomber notre flamme, notre désir de la présence de Dieu. On se pense correct, mais on est misérable, pauvre, aveugle et nu, puis on a besoin de ce que Dieu veut nous donner. Puis là, de demander à Dieu, Seigneur, t'es en train de cogner, tu veux revenir? Viens, rentre, prends la place, pas juste de ma maison, de mon église. Puis là, le feu va prendre dans l'église. L'excitation, les choses de Dieu.
J'ai passé là, moi, pendant 28 ans. J'ai fait ça pendant 28 ans. Puis je me prête à ma chrétien.
Oui. Mais ça, c'est des fois, c'est comme... C'est l'ennemi qui nous fait suivre une carotte. On suit quelque chose, puis ça nous amène en dehors. Tu sais, quand que tu mets un bâton, puis il y a quelque chose qui nous attire, là, c'est la carotte qui est devant, accrochée après l'angle, avec un bâton. Puis là, le l'âne, il voit la carotte, puis il avance. Mais l'ennemi, des fois, il nous en met des carottes de même, puis on suit, on s'éloigne. Je vais vous donner deux petits moyens bien vite pour finir ce message-là. Voici quelques moyens pour devenir plus en feu pour le Seigneur. Le Seigneur nous donne dans sa parole des affaires qui alimentent notre carburant. Dans Éphésiens 6.15, ça nous dit, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que... donne l'évangile de paix. La Bible, la parole de Dieu, plus que tu vas la lire, plus que tu vas la méditer, plus que tu vas t'en nourrir, plus que tu vas devenir zélé pour le Seigneur. Ça produit une excitation, ça augmente ta foi, puis ça va te donner tous les versets que tu as besoin pour te donner de la persévérance, de la persistance, avoir un désir d'aller plus loin puis d'en avoir plus. Puis si on la néglige, mais on se refroidit, puis Puis c'est comme si on n'a pas de bois dans le poêle. La Bible, la parole de Dieu, c'est du bois que tu mets dans ton poêle. Ça alimente ton feu. Nourris-toi de la Bible plus que n'importe quoi. Prends-en tous les jours, puis si t'es capable, des bonnes portions. Puis un autre point dit, on ne doit pas se laisser éteindre par notre paresse de notre chair, mais on doit revêtir la flamme de l'Esprit. Puis c'est le Saint-Esprit qui produit cette flamme-là. Dans Romains 12, 11, ça dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. » Le mot « fervent » qu'il y a là, c'est bouillir de chaleur, être chaud de l'esprit. C'est ça que ça dit. Puis là, ça dit « servir le Seigneur ». Ça dit « ayez du zèle et non de la paresse. Soyez bouilli de chaleur. » Être en train de bouillir de chaleur, puis être chaud en servant le Seigneur. Par l'esprit, parce que c'est... On voit dans une autre traduction, dans le zèle, soyez sans paresse, puis dans le bouillonnement du souffle. Le souffle, c'est l'esprit. Faut être dans le bouillonnement du souffle. Quand on disait tantôt, au début, Jean-Baptiste a dit, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le Saint-Esprit qui va venir sur toi, ça va être une puissance qui va alimenter ton feu. C'est lui qui va te faire bouillir. Le Saint-Esprit plus la parole de Dieu dans ta vie abondamment, tu vas bouillir. Tu vas être dans le bouillonnement du souffle de l'Esprit. Puis tu vas être capable de produire ce que Dieu s'attend de toi. Tu seras pas tiède, tu seras pas froid, tu vas être bouillant. En autant qu'on veuille. Puis c'est pour ça que je disais au début, c'est une question qu'on se pose. Comment va ta flamme? Faut s'examiner. Faut s'arrêter. Es-tu un excité du Seigneur? Es-tu bouillant? J'aime-tu le Seigneur au bout? Es-tu content d'aller à l'église? J'aime-tu prier? Ça peut arriver qu'on dise non à une de ces réponses-là.
Ah, ben, moi, je peux te le dire tout de suite. C'est non à tout.
Puis, mais... Cherche pas une réponse nécessairement, mais faut se le dire, puis faut le dire à Dieu pour que Dieu vienne le produire, puis faut que je me verse à être rempli de l'Esprit, puis à me nourrir de la parole de Dieu pour que le feu prenne. C'est que là, on voit que c'est l'effort que nous devons faire.
Exactement.
C'est... Ayez du zèle et non de la paresse, ça dit pas que le Saint-Esprit va le faire à notre place. C'est quelque chose que faut que je m'implique cette discipline-là. L'homme d'un moment, là, celui qui a versé à sa manse avec joie sur le coup, mais c'est un homme temporaire. Faire un effort permanent, il est pas capable. Mais faut se donner des coups de pied puis se joindre. Quand il dit, mettez tous vos efforts, dans Pierre qui dit ça, à joindre à votre foi la vertu. Ça, c'est une attitude constante à vouloir faire le bien. À la vertu, la science. Mais la science, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Il dit, mettez tous vos efforts à joindre une attitude à vouloir bien faire, à joindre la connaissance de Dieu. Faut-tu mettre tous tes efforts à joindre la connaissance de Dieu? Ça veut dire, faut que tu étudies la Bible, faut que tu la lis, faut que tu y réfléchisses, faut que tu écoutes des prêches, faut que tu mettes tes efforts. C'est quelque chose qu'on doit se discipliner. Puis, si on le fait en commençant, là, chaque matin, il faut que je rouvre ma Bible. Puis là, tu pars avec ça. Tu vas prendre des forces, puis tu vas le faire de plus en plus. Mais il faut que tu y arrives à dominer ton corps, que lui, ça ne tente pas. Il y a mieux de la paresse. Il y a mieux pas le faire. Notre corps, il ne veut pas faire des efforts. Il ne faut pas l'écouter, le corps. Il faut écouter l'homme spirituel. Il y a l'homme animal, puis il y a l'homme... l'homme charnel puis l'homme spirituel. Mais quand t'es né de nouveau, tu peux marcher selon ta chair, t'es l'homme charnel. Il faut que l'homme spirituel domine la chair puis qu'il l'assujettisse puis qu'il amène son corps dans les choses qu'il doit faire. Prendre du temps pour prier, prendre du temps pour lire la parole, prendre du temps pour aller aux réunions. Faut faire ça comme moi, il n'est pas question que j'aille pas à mes réunions. Ça peut arriver une fois de temps en temps, j'y aille pas, mais depuis 30 ans que je suis chrétien, je suis là. J'ai refusé des jobs pour pas n'en manquer, puis pouvoir être toujours impliqué dans mon poste à l'église, que ce soit jouer de la musique, prêcher, n'importe quoi. Faut que je fasse ce que Puis il m'est mis devant moi, puis je vais m'arranger, je vais lâcher la job même, plutôt que si je verrais qu'un job me ferait manquer mes réunions, je lâcherais la job. Moi, c'est, je cherche premièrement un job qui va me faire rien que travailler 5 jours pour avoir mon dimanche off, pour aller m'impliquer à l'église. C'est, pour moi, c'est une priorité. Parce que je n'ai besoin, ça me bénit être à l'église, ça me fait grandir. Ça me fortifie, je me sens en présence de Dieu qui est là, puis ça me fait du bien, puis c'est ce que je vais aller prendre du temps pour puiser. Puis comme les réunions qu'on fait là, ça, le corps, ça ne tente pas, mais quand on commence, puis on commence à chanter, là, ça commence à... Ça change. La minute qu'on rentre en présence de Dieu, le temps passe, puis la réunion est finie, puis ça nous a fait du bien. J'espère que ça vous a...
Ça va passer trop vite.
Il faut s'en aller, malheureusement.
Bien que 7h22.
On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Je te remercie pour ta parole qui nous enseigne, qui nous encourage à revêtir ce zèle-là, cette ardeur-là. Puis on le sait que ça vient du Saint-Esprit, puis ça vient de ta parole. On veut, Seigneur, se discipliner, mettre tous nos efforts à ne pas être paresseux, mais à faire ce qui a à être fait pour qu'on puisse le vivre puis être fervent du souffle divin. Que le feu de Dieu puisse nous animer, Seigneur. Qu'on puisse être rempli et revêtu de ta puissance, puis qu'on puisse avoir ce zèle, puis de faire les choses que tu nous demandes avec empressement. Fait qu'on remet nos ventres tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.